Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Pierre Gahungu.
Nous sommes jeudi 13 juillet 2023. Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal, dont voici d'abord les titres. Seul le CNL est responsable des problèmes qu'il traverse, ainsi le ministère de l'Intérieur s'en lave les mains. C'est ce qu'affirme Pierre Mouliquier, porte-parole de ce ministère. Vous l'entendrez dans ce journal. Des stocks stratégiques, c'est ce qu'envisage le gouvernement en attendant que le carburant stocké à Dar es Salaam arrive. C'est la porte-parole du chef de l'État, Guylaine Gattoni, qui le dit. Elle indique que des camions manquent pour transporter ce carburant. Et puis, un véritable appel du pied lancé à Pascal Firmin Dimila. C'est le journaliste Franck Haté qui demande à l'ancien recteur de l'Université du Burundi de sortir de son silence pour témoigner dans le dossier de l'ex-président de l'Association des étudiants de l'Omouri. Parce que, selon le journaliste, il est le seul à détenir la vérité qui pourrait sauver Clément Nkurunziza. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Il y a suffisamment de carburant stocké en Tanzanie. Le problème est son transport jusqu'au Burundi. C'est ce qu'affirme la porte-parole du chef de l'État, Guylaine Gattoni, lors de la conférence publique animée par les porte-paroles des institutions aujourd'hui. Elle indique que le gouvernement se penche en ce moment sur les possibilités de constituer des stocks stratégiques qui pourraient servir en attendant que le carburant arrive au pays en provenance de la Tanzanie. Suivez la porte-parole du président.
Binjukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravumereye ko kibazo cy'igitoro agiye kugifata mu ntoki byo muri iki gihe.
C'est vrai, le chef de l'État s'est engagé à prendre en main la question du carburant. Tantôt le carburant est disponible, tantôt c'est la pénurie où on observe que les quantités livrées sont insuffisantes, tantôt elles sont suffisantes. Nous tenons à rassurer les Burundais que le carburant est stocké en Tanzanie. On l'a acheté en abondance. C'est son transport qui cause problème pour le moment. Nous avons connu pas de déception de la part de certains Burundais inciviques qui refusent de servir leur pays alors qu'ils ont tous les moyens de transport, qu'ils ont des camions appropriés. D'autres l'amènent, mais ils ne distribuent qu'aux certaines stations-service. D'autres encore, ça donne au clientélisme dans la distribution. Le chef de l'État exhorte les Burundais de bonne foi de transporter le carburant en grande quantité. Le gouvernement se prépare pour constituer des stocks stratégiques au pays pouvant servir en attendant que le suivant approvisionnement à l'étranger arrive.
Bikwa hano mu Burundi gucyo bagiye kuzana ikindi abari cyo kibakira kogwa umwanya bagiye kukizana.
Personne n'est derrière les difficultés que connaît actuellement le parti Congrès National pour la Liberté d'Agathon Rwasa. C'est ce que fait savoir le porte-parole du ministère de l'Intérieur. C'était lors d'une conférence publique organisée par les porte-paroles des institutions du pays qui s'est tenue ce jeudi au chef-lieu de la province Burambia. Pierre Moulikier a indiqué que les activités du dit parti ont été suspendues pour éviter d'éventuels affrontements entre les membres. Écoutez Pierre Moulikier.
Ce que notre ministère peut faire savoir, c'est que les difficultés que connaît le parti CNL sont des problèmes internes au parti. Aucune main extérieure n'est derrière la situation. C'est un problème de leadership qui se trouve au sein de ce parti. Les deux partis en conflit ont exposé les problèmes au ministère. Ils ont été auditionnés par le ministre. Il est à prodiguer des conseils conformément à la loi pour qu'ils aillent régler leurs différends. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Après avoir constaté qu'ils n'ont pas respecté les conseils, le ministère a pris la décision de suspendre toutes les activités de ce parti au niveau national parce qu'il détenait des informations qu'en cas d'assemblée, il pourrait y avoir des affrontements entre les membres. Ce qui a suivi, c'est que chaque parti a limogé l'autre. Ils ont même dit qu'ils ont organisé des réunions dans tout le pays, mais le ministère a constaté que ces réunions n'avaient pas respecté la loi. Le ministère les a informés que toutes les conclusions issues de ces réunions ne sont pas considérées.
Et pourtant, de son côté, le CNL accuse le parti au pouvoir d'être l'instigateur des sabotages qu'il subit par le biais du même ministère de l'Intérieur, dont Pierre Mouliquier est le porte-parole. Des entraînements paramilitaires qui sont en train d'être effectués par les jeunes Imbonerakure en province Makamba sont une autre forme de boycotter les perspectives d'avenir du pays. C'est l'explication de Frédéric Bamfouni-Villa, président de la CFOR Arusha. Il le dit au moment où des jeunes Imbonerakure sont dans une formation paramilitaire en zone Bigina de la province Makamba. Pour lui, ces formations devraient être interdites sur tout le territoire national, car cela ne fait qu'engendrer des crimes dans le pays. Écoutez-le.
Lorsque un parti politique décide d'entraîner ces jeunes, pas d'autres jeunes, mais ces jeunes au maniement des armes, aux exercices militaires, aux manœuvres militaires, cela signifie qu'en termes de court terme, il y a des choses qui s'envisagent. Tant il y a des crises qui peuvent s'annoncer ou qui sont annoncées et qui doivent être gérées par son parti. Alors maintenant, je m'interroge sur la raison. Pour moi, la première raison, c'est peut-être les élections prochaines. Les élections prochaines du CNDD-FDD doivent tenir compte de ce qui s'est passé en 2020 et concevoir ce qui pourrait se passer en 2025, en 2027. Il a été observé que les élections de 2020 ne se sont pas bien déroulées. Je crois que les rapports de l'Église catholique sont on ne peut plus critiques. Alors, maintenant, si on analyse le comportement politique du CNDD-FDD vis-à-vis du parti comme CNL, montre à suffisance que le parti CNDD-FDD a peur du CNL, qu'il faut, sur le plan politique, l'empêcher d'animer des réunions, l'empêcher de rayonner sur le terrain pour qu'il ne puisse pas justement lui damer l'opinion comme en 2020. Même si sur le plan politique, il y a des décisions qui se prennent, ils ne sont pas sûrs que sur le plan pratique, il ne peut pas y avoir des réactions entre les jeunes du CNL et les jeunes du CNDD-FDD. Donc ce qui fait qu'il faut prévenir en entraînant les jeunes du CNDD-FDD qui feraient face aux jeunes militants des autres formations politiques, y compris la formation politique CNR. Ça c'est pour moi la première hypothèse. La deuxième hypothèse, bien entendu, c'est bel et bien ce conflit qui est latent ou qui est évident à travers les mots, mais qui n'a pas encore éclaté au grand jour. C'est ce conflit entre le président du CNDD-FDD et le président de la République. Visiblement, ils ne s'entendent pas sur comment manager les élections, sur comment manager le pays. Et il se voit que le président de la République souhaiterait faire le deuxième mandat, alors que Révérien, le président du CNDD-FDD, se dirait « Non, non, c'est mon tour », puisqu'il a été démontré que dans le temps, celui qui dirige le parti, c'est le prochain candidat. Et si c'est cela, il devient un grand problème parce que, quelque part, tenant d'Évariste, les tenants de Révérien pourraient s'affronter. Est-ce que ça ne peut pas, ceci ne peut pas expliquer cela? Peut-être, ce sont des hypothèses comme je l'ai déjà dit. Je rappelle qu'au niveau de la Constitution, il n'y a que trois structures qui peuvent s'occuper de la sécurité. C'est bel et bien l'armée et la police. Enfin, il y a le renseignement. À travers un parti uni, nous avons vu les conséquences de ce que était le parti unique dans les années 60, les années 70, les années 80, et voilà ce que nous sommes devenus. Et alors, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, rassurez-vous que ce parti unique qui entrerait dans la formation des jeunes, de ses militants, évidemment, au lieu de les laisser vaquer aux activités qui leur permettraient de se développer, eh bien, nous allons avoir forcément la confrontation, donc la guerre.
Inzamba.
Le journaliste burundais Franck Kadze, ancien condisciple de Clément Nkurunziza, vient d'adresser une lettre ouverte à Pascal Firmin Dimila. Celui-ci était recteur de l'université du Burundi à l'époque où Clément Nkurunziza était président de l'association des étudiants de Rumuri. Preuve à l'appui, le journaliste demande à Pascal Firmin Dimila de sortir de son silence pour témoigner dans l'affaire Clément Nkurunziza. Car, selon Franck Kadze, l'ancien recteur est le seul qui détient la vérité dans ce dossier. Les détails de cette correspondance avec Alain Majesté Balenga.
Dans cette lettre ouverte qu'adressait à Pascal Firmin Dimila, ancien recteur de l'Université du Burundi, et ancien Premier ministre, le signataire de la lettre ouverte est Franck Kadze, fait savoir qu'il a écrit cette lettre d'abord comme ancien condisciple de cours de Clément Nkurunziza à l'Université du Burundi. Franck Kadze, qui a en même temps rescapé du massacre du 11 juin 1995, à travers cette lettre ouverte, témoigne l'innocence de Clément Nkurunziza, qui à cette époque était le président de l'association des étudiants de Rumuri Acer. Franck Kadze reconnaît le travail que Clément Nkurunziza et Pascal Ndimira ont accompli pour apaiser les esprits. Franck Kadze explique qu'il a pris la décision d'écrire en Ndimira parce qu'il connaît sa droiture, le courage et la détermination dont il a fait preuve pour éviter le pire. Cet ancien condisciple de Clément Nkurunziza fait également savoir qu'il le connaît assez bien pour avoir fréquenté ensemble la faculté d'histoire. Franck Kadze d'ajouter que Pascal Firmin Ndimira, accompagné d'Athanase Bakunda, qui était à l'époque vice-recteur, Pierre Clavin Nzeimana, qui était à cette époque directeur de la régie des œuvres universitaires, et Clément Nkurunziza, le président de l'association des étudiants de Rumuri, les quatre personnalités étaient des hommes de grand cœur, affirme Franck Kadze. Il implore donc l'ancien recteur de l'université du Burundi, qui a bien connu et travaillé avec Clément Nkurunziza, de tout faire pour disculper cet innocent. Dans cette lettre ouverte, avec copie au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, au ministre de la Justice, Dominique Banyankimbona, et au procureur général, Sylvestre Nyandwi, le journaliste Franck Kadze ajoute que des questions se bousculent dans sa tête. Premièrement, il se demande comment l'ancien recteur peut laisser un innocent payer pour un crime qu'il n'a jamais commis. Franck Kadze implore Pascal Firmin Ndimira de faire preuve de courage pour témoigner l'innocence de Clément Nkurunziza, car il est le seul qui a le pouvoir de le faire.
Merci Alain Majesté Baringa. Et pour terminer, il y a 7 ans, jour pour jour, Afsa Mossi, ancienne députée burundaise de l'Assemblée législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EALA, a été assassinée. Le crime a été commis par des hommes armés de fusils près de son domicile à Girosha, dans le quartier Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura. Le dossier sur son assassinat est toujours pendant devant la justice. Josephine Jones-Mundimana nous rappelle les faits sur ce drame.
Le crime s'est passé le 13 juillet 2016 à 10h30, près du domicile d'Afsa Mossi, ancienne députée de l'EALA. Les témoins de la scène macabre affirment avoir vu un véhicule de marque Toyota Premio avec des vitres teintées de noir et des assaillants à l'intérieur. À ce moment, ce véhicule s'est approché de la voiture Mercedes d'Afsa Mossi et l'a cogné sur le côté droit. Nos sources nous disent que la députée Afsa Mossi a baissé sa vitre pour voir ce qui se passait. Un des criminels a sorti son pistolet et lui a tiré dessus à bout portant. Il y aurait eu un autre coup de feu tiré en l'air pour la dissuasion et après le forfait, le véhicule des assaillants s'en est éloigné à toute vitesse. La députée Afsa Mossi a été par la suite évacuée à l'hôpital militaire de Kamenge où elle a succombé à ses blessures le même jour. Après cette disparition, des personnalités de tous les horizons qui voyaient en la personne de Afsa Mossi une figure modérée du parti CNDD-FDD et surtout une femme de cœur avaient exprimé leur sympathie après cet assassinat. Pour rappel, la députée Afsa Mossi, avec d'autres membres de l'EALA, venait d'effectuer une visite au camp des réfugiés burundais de Mahama, au Rwanda. Elle avait pleuré quand elle a vu les conditions dans lesquelles vivaient ces réfugiés. Ce geste de compassion n'aurait pas plu aux extrémistes du CNDD-FDD qui voyaient en cela une marque de trahison. Certaines sources disent d'ailleurs qu'elle aurait eu des appels anonymes qui lui demandaient pourquoi elle est allée pleurer devant les animaux. D'autres qui lui demandaient de choisir entre être avec eux ou contre eux. Avec tout cela, Afsa Mossi aurait commencé à se sentir menacée. Vous saurez qu'après l'assassinat de Afsa Mossi, 3 jeunes hommes ont été arrêtés. Ce sont successivement Eric Ndayishimiye, qui était alors étudiant à l'ISCAM, Claude Chanel Furanzima et Jean-Baptiste Nilandekura, tous poursuivis pour assassinat, participation aux bandes armées et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils ont tous plaidé non coupables devant le tribunal et le dossier reste toujours pendant devant la justice.
Josephine Jones-Mundimana, et c'est par vous que s'achève cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.